Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Tout d'abord, je voudrais remercier Dominique Doucet et Isabelle Coche pour l'honneur qu'ils m'ont fait de m'inviter à Nantes à l'occasion de ce colloque sur les antécédents de l'Idipsum d'Augustin. Je voudrais aussi remercier le département de philosophie de l'Université de Nantes, dans la personne de Pascal Taranto, pour l'accueil très amical et très agréable à Nantes aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui, je m'occuperai d'un cas spécifique de réflexivité, celle de la première personne singulière, au singulier, à l'intérieur de l'univers doctrinal du stoïcisme. En particulier, je souhaite considérer, du point de vue stoïcien, l'expression propre à nos langues modernes, moi-même, une expression que nous avons entendue plusieurs fois aujourd'hui. En outre, dans la même perspective, donc dans la perspective stoïcienne, j'analyserai le cas d'une proposition, une véritable proposition, contenant cette expression, c'est-à-dire une action du sujet qui retombe sur lui-même. Il s'agira en particulier de l'action de communiquer avec soi-même. Si les objets de notre discussion aujourd'hui sont moi-même et communiquer avec soi-même, nous procéderons d'une manière ordonnée en réduisant ces termes à leurs composants atomiques, pour ainsi dire. Je commencerai donc en discutant le mot grec « ego », « moi, je ». Après, ce qui correspond à l'expression « moi-même », et ça c'est la partie linguistiquement plus fascinante, si vous voulez, et enfin, en présentant un cas philosophiquement significatif de communication avec soi-même. Je pense que la plupart de vous aussi, en écoutant la présentation, savent de quoi il s'agira à la fin, donc notamment du Marc Aurèle. Le corpus que je souhaite discuter contient des textes qui varient beaucoup du point de vue de leur valeur philosophique et qui proviennent de différents domaines, surtout de la grammaire, bien évidemment, et de la philosophie, et qui possèdent des formes différentes de relations avec le stoïcisme, qui reste en tout cas l'univers théorique dans lequel nous allons travailler. Avec l'analyse de « ego », donc le mot grec pour dire « j'ai »,« moi », nous sommes en effet déjà dans le contexte d'une action retombant sur le sujet, notamment d'un acte épistémologique. En d'autres termes, nous aurons avec « ego » la possibilité de nous interroger sur l'une des formes les plus fondamentales de perception de soi, c'est-à-dire la dimension linguistique d'une telle perception indiquée. Le fait d'indiquer linguistiquement soi-même étant évidemment une forme de reconnaissance de soi-même. Pour débuter, je me suis laissé inspirer par mon projet actuel concernant la 10e question platonicienne de Plutarque. Ce texte, qui a été écrit au 2e siècle après Jésus-Christ, comporte 10 sections. Chacune d'entre elles discute une citation, ou plutôt une quasi-citation, c'est-à-dire un résumé ou une reformulation d'un passage spécifique tiré des dialogues de Platon, avec une attention particulière à l'égard du Timée et de la République. Les thèmes sont différents et comprennent la psychologie, la cosmologie, aussi bien que d'autres domaines philosophiques et scientifiques. La dernière question, la 10e, discute le résumé d'un célèbre passage du Sophiste de 162 C, pour lequel on peut trouver d'ailleurs plusieurs loci similes dans le reste du corpus de Platon, notamment dans le Cratyle, évidemment. En effet, Plutarque ouvre la discussion de la manière suivante. Pour quelle raison, c'est un texte que je vous lis et il est absent de mon exemplier. Pour quelle raison Platon a-t-il dit que l'énoncé se compose de noms et de verbes? Plutarque se fonde sur une interprétation strictement grammaticale de l'assertion de Platon et essaie de démontrer que les autres, soi-disant parties du discours, l'article, la proposition, etc., ne sont pas des vraies parties, mais des éléments accessoires de celui-ci. Voilà plus ou moins son but démonstratif. Le mélange des différents plans historiques conceptuels est fascinant. Afin d'éclaircir et de défendre Platon, Plutarque se sert des instruments conceptuels propres à la grammaire alexandrine qui s'y constitua après Platon et qui avait une vision des phénomènes linguistiques tout à fait différente. Parallèlement, cette forme de liberté historiographique et exégétique amène Plutarque à utiliser d'autres arguments de contemporaines, notamment des stoïciens. Presque à la fin de la question, il discute le cas des pronoms. Voilà. C'est avec ce texte que je souhaite commencer. Le mot « ego », vous le verrez, n'est pas explicitement discuté, mais différents éléments apparaissent que nous trouverons dans d'autres textes. C'est donc notre texte 1. En outre, parmi les autres mots, le pronom est éminemment un genre du nom, non seulement parce qu'il partage ses cas, mais aussi parce que certains pronoms, lorsqu'ils ont exprimé à propos d'objets spécifiques, fournissent à l'expression une indication extrêmement spécifique, curiotaten. Je ne crois pas que celui qui a prononcé le mot Socrate et davantage désigner une personne d'une manière plus claire en l'appelant par le nom propre plutôt que celui qui a prononcé celui-là, outos, touton, dans le cas spécifique. Je voudrais me concentrer sur certains éléments très simples du texte. La deixis, l'indication, est un trait spécifique du pronom, lorsque ce dernier est utilisé pour des objets spécifiques. Aussi bien le pronom que le nom possèdent la capacité d'indiquer un objet ou un être humain. Voilà la raison sémantico-référentielle de la parenté des pronoms avec le nom, qui s'ajoute à la raison morphologique, c'est-à-dire le fait de partager les cas. Curiotaten, c'est un mot que j'ai souligné, donc d'une manière, une indication extrêmement spécifique. Curiotaten, cet adjectif, est particulièrement intéressant. Celui-là nous fournira, le mot celui-là nous fournira les mêmes informations que Socrate, exactement le même. C'est notamment cela que l'observation introduite par Umallon explique à la fin du texte. Comme je vous ai annoncé, ces éléments réapparaîtront au cours de notre discussion. Qu'est-ce qui arrive quand je dis « j'ai, moi, simplement, ego » ? Je prononce un mot afin de désigner quelque chose ou une action, et sur cette alternative, nous devrons revenir afin de l'éclaircir d'une manière plus précise. Dans cet acte de langage, je suis évidemment le locuteur, je prononce le mot « ego ». Pourtant, dans ces cas-ci, l'objet que je désigne en prononçant « ego » correspond au sujet même qui a prononcé le mot, c'est-à-dire moi-même. Pour notre but, nous devrions nous poser les questions suivantes. Dans cette assertion, donc, quand on prononce le mot « ego », le sujet et l'objet sont-ils coextensifs? En d'autres termes, quand je dis « ego », est-ce que je désigne exactement la même personne qui a prononcé « ego » ou une partie d'elle? Quand je prononce « ego » et je désigne moi-même à l'aide de cet acte de langage, quel est le degré de connaissance que cet acte implique? C'est-à-dire, quelle conscience de l'objet arrive-je à obtenir? Donc, quelle connaissance de moi-même en prononçant le mot « ego » ? Je voudrais m'occuper de la première question, c'est-à-dire qu'est-ce que j'entends exactement quand je dis « ego » ? Je voudrais commencer la discussion à l'aide d'un paralogisme de Chrysippe très célèbre, le texte 2. Si tu dis quelque chose, cela passe par ta bouche. Mais tu dis un chariot, donc un chariot passe par ta bouche. Si ces paralogismes n'étaient pas fallacieux, nous pourrions reformuler notre question de la manière suivante. Qu'est-ce qui passe à travers ma bouche quand je dis moi? Serait-il un être humain qui ne pourrait d'aucune manière être distingué de moi-même? Pourrions-nous l'imaginer comme une sorte de tableau de William Blake dans lequel un deuxième angelo est engendré à travers ma bouche, la bouche de cet angelo aussi? Serait-il le même dans ce cas, serait-il même dans ce cas-ci une partie de moi ou un autre moi? Le paralogisme, néanmoins, doit être démasqué, évidemment, en tant que paralogisme, notamment à l'aide d'une célèbre tripartition stoïcienne, qui peut être d'ailleurs utile pour notre but. Texte 3. Il y a un autre sujet de désaccord entre les philosophes concernant ce qui est vrai. Quelques-uns ont soutenu que la sphère de ce qui est vrai est faux et le signifié, d'autres l'émission vocale et d'autres le processus qui constitue la pensée. Les stoïciens défendaient la première opinion en disant qu'il y a trois choses liées ensemble, le signifié, le signifiant et le porteur de nom. Le signifiant est une émission vocale, par exemple Dion. Le signifié est l'état des choses réelles qui est révélé par l'émission vocale et que nous saisissons en tant qu'il subsiste en conformité avec notre pensée. Alors que ceux dont le langage est différent ne le comprennent pas, bien qu'ils entendent l'émission vocale. Le porteur de nom est l'objet extérieur, par exemple Dion lui-même. De ces trois entités, deux sont des corps, l'émission vocale et le porteur du nom, mais le troisième est incorporel, l'état des choses signifié et visible, qui est vrai ou faux. Ce texte nous dit les choses suivantes. Quand je dis ego, quelque chose, notamment un corps, passe à travers ma bouche, effectivement, mais ce corps-ci, et le mot « ego », c'est-à-dire l'air qui est modifié et articulé par mes organes. À côté de cela, à l'intérieur de cet acte de langage, je suis le porteur de nom, comme disons, la personne physique. Qu'est-ce que sera finalement le signifié? Lisons à nouveau la définition de ce dernier élément et essayons de l'utiliser dans le cas spécifique d'ego. Quand je dis « ego », j'utilise maintenant carrément le mot de Sextus Empiricus, donc Chrysippe, je désigne l'état de choses réelles, « autotopragma », qui est révélé par l'émission vocale « to iupautes de lumenon » et que je saisis ou nous saisissons « ou emeis men antilambanometa » en tant qu'il subsiste en conformité avec ma ou avec notre pensée. Te emetera pariufistamenu dianoia. Alors que ceux dont le langage est différent ne comprennent pas, bien qu'ils entendent l'émission vocale, oi de barbaroi, uc epaiusi, caiper, tesfones, acuontes. L'expression en tant qu'il subsiste en conformité avec ma pensée ou avec notre pensée est essentielle pour notre but. Imaginons la situation suivante. Moi, en français, et quelqu'un qui ne parle pas français. Si je dis « je », moi et le français, nous comprendrons. La troisième personne ne comprendra pas. Le français et moi, nous comprenons car le mot « je » signifie quelque chose que, encore une fois, subsiste en conformité avec notre pensée. Il faudrait noter que « je » constitue néanmoins une exception même à l'intérieur d'une telle tripartition, de cette tripartition stoïcienne. On pourrait bien sûr d'abord se demander si le français, l'autre personne parlant ma langue, quand je dis « je » aura dans son esprit le même signifié que moi je donne à ces mots. C'est-à-dire si mon idée, et le mot est imprécis, de moi-même correspond à son idée de moi. Mais cela est un problème qui peut avoir lieu, nous le savons, dans la plupart des communications verbales et qui n'était pas au cœur du souci théorique des stoïciens, sauf peut-être dans la discussion de l'ambiguïté, mais dans une perspective tout à fait différente qui ne nous intéresse pas aujourd'hui. Ici, il y a quelque chose d'autre. Le français et moi, nous comprenons quand je dis « je », mais si le français, mon interlocuteur qui partage ma langue, disons la langue que nous utilisons, dit « je », nous continuons bien sûr à nous comprendre mutuellement, mais le « denotatum », le « tum canon » sera un autre, c'est-à-dire lui-même et non plus moi. Si nous, nous comprenons et utilisons le même mot, il doit y avoir quelque chose qui est commun aux deux actes de langage. S'agit-il de la simple deixis, moi, ou il y a quelque chose d'autre qui peut d'ailleurs jouer un rôle important en termes de perception de soi? Qu'est-ce que nous allons faire avec la personne qui ne parle pas français? Probablement le geste qui correspond à moi. C'est-à-dire que nous indiquerons avec un geste et non pas avec le mot, le denotatum, l'objet en question, moi. Cette possibilité nous amène au texte 4, où l'ensemble de ce que nous avons discuté jusqu'à maintenant est thématisé d'une manière, d'une façon détaillée et, je pense, très fascinante. Nous disons aussi ego de cette façon, en nous montrant nous-mêmes à l'endroit où nous disons que réside la pensée. Donc en nous montrant nous-mêmes à l'endroit où nous disons que réside la pensée, puisque la référence ostensible est alors indiquée de façon naturelle et appropriée. Et même sans user de cette référence ostensible à l'aide de la main, nous faisons un signe de tête vers nous-mêmes quand nous disons « ego », puisque l'émission vocale « ego » est d'emblée de ce type et qu'elle se profère en conformité avec la référence ostensible immédiatement effectuée. En effet, nous prononçons la première syllabe de « ego » en laissant tomber la lèvre inférieure vers nous-mêmes de manière ostensible. Quant à la seconde syllabe, elle se rattache également au mouvement du menton et au geste de la tête vers la poitrine, le siège, encore une fois, de la pensée, c'est-à-dire à ce type de référence ostensible. Et elle n'indique rien d'éloigné, comme il arrive au contraire dans le cas des keinos. Voilà, celui-là donc où toute la prononciation est un éloignement de soi-même avec l'extérieur, celui-là. Comme si Ekeinos reflétait effectivement parfaitement ce geste-là. Ces textes se fondent sur l'idée stoïcienne du sympaskein, c'est-à-dire la connexion nécessaire entre les structures du réel et certains aspects de la représentation linguistique du réel, notamment. L'étymologicum magnum, juste pour faire un exemple, attribue au grammairien Tryphon, 1er siècle avant Jésus-Christ, l'affirmation sune paten ephoneto su semainomeno, l'objet linguistique possède les mêmes caractéristiques de la chose désignée. Et ça, évidemment, est clair dans cette explication d'ego. Dans le texte 4, je voudrais souligner certains éléments. La déixis du mot ego et du geste se réfère au même objet. Donc, cela correspond à dire ego avec cette moi-même. La déixis du geste semble néanmoins être plus précise et se réfère à l'endroit où nous disons que réside la pensée. Nous devons donc présupposer que l'objet que le mot ego désigne, notamment cette partie, et qu'elle subsiste en conformité avec notre pensée. Encore une fois, avec le mot du texte 3. Mais nous observons aussi que la partie dont nous parlons est exactement cette pensée, dianoia, en conformité avec laquelle la partie d'origine, pour ainsi dire, doit subsister. Voilà. Donc, j'indique la pensée, la dianoia, qui est en fait la partie en conformité avec laquelle le signifié de moi-même doit exister. Donc, vous comprenez, vous voyez la circularité de cette idée. Cette thèse est-elle convaincante pour un contemporain de Chrysippe, nous pourrons nous demander. Nous pourrons, par exemple, affirmer qu'il y a en effet deux gestes, et non pas un seul pour désigner moi-même. Le geste normal, comme dans les textes, est un geste dynamique qui pourrait indiquer l'ensemble du corps, et ne pas correspondre à cette idée de soi se trouvant dans le cœur, dirons-nous, dans la pensée. Le même pourrait être dit pour la déixis d'ego. Elle pourrait faire référence non seulement à la noia, si je dis, si effectivement j'indique avec mon menton ce qui se trouve au-dessus, je pourrais indiquer l'ensemble de mon corps. Des informations supplémentaires et d'autres occasions de réflexion peuvent être trouvées dans le texte suivant, le texte 5. Nous découvrons que l'idée de la deixis de ego se trouve aussi à Rome, où Chrysippe est cité par Nigidius, Figulus. Je préfère sauter la première partie du texte et je commencerai par la citation. Je cite, voilà, donc après environ, à partir de la sixième ligne. Quand nous disons vos, vous, le mouvement de la bouche est en quelque sorte adapté à la signification du mot lui-même. Nous faisons une moue imperceptible du bout des lèvres et nous dirigeons notre souffle et notre haleine vers l'extérieur, c'est-à-dire vers nos interlocuteurs. Au contraire, quand nous disons nos, nous, la prononciation n'implique pas cette projection orientée du souffle vocal ni ce mouvement en avant des lèvres, mais tout se passe comme si nous retenions en nous-mêmes souffle et lèvres. Nous. Voilà. Même contraste quand nous disons tout, toi, et ego, bien évidemment, moi, ou tibi à toi et mihi à moi. Du reste, quand nous faisons oui ou non de la tête ou des yeux, le mouvement ne manque pas d'un certain rapport avec la nature de ce qu'il signifie. C'est d'une façon analogue que le mouvement de la bouche et du souffle a quelque chose de naturel. Dans les mots cités, ce que nous avons remarqué dans le mot latin rend également, bien évidemment, compte des mots grecs, ce que nous venons d'observer. Dans ce texte, les points suivants sont à souligner. Première observation, c'est référent à la partie du texte que je n'ai pas lue. Le cas d'ego est présenté à l'intérieur de la démonstration de la nature non conventionnelle du langage. Deuxième réflexion, deuxième observation, en comparaison du texte 4, la valeur référentielle du geste est discutée d'une manière plus précise, et notamment dans la partie finale du texte. Quand il dit, du reste, quand nous faisons oui ou non de la tête ou des yeux, le mouvement ne manque pas d'un certain rapport avec la nature de ce qu'il signifie. Donc, cette dimension naturelle est ultérieurement soulignée. Je voudrais faire maintenant une petite parenthèse en introduisant le texte 6, mais je présenterai ces textes à l'intérieur de cette parenthèse, je laisserai peut-être ce point de ma présentation pour la discussion, notamment avec les amis et collègues avec qui j'étudie la théorie de l'action stoïcienne. Au début du texte 4, nous avons lu les mots suivants. Nous disons aussi ego de cette façon, en nous montrant nous-mêmes à l'endroit où nous disons que réside la pensée, puisque la référence ostensive est alors indiquée de façon naturelle et appropriée, physikos, bien évidemment, kai oikeios, voilà, d'une manière appropriée. Oikeios est notamment, dans ce cas, un mot et un aspect de cette idée, donc la façon appropriée, et qui a suggéré pour cette conception du pronom personnel de première personne un lien avec une importante théorie stoïcienne, notamment la théorie de l'oikeiosis, donc de l'appropriation de soi-même qui serait une sorte de tendance naturelle de l'être humain dès sa naissance. Pour ainsi dire, nous reflèterons en disant « ego » et en donnant cette valeur déictique à « ego », ce mouvement naturel vers nous-mêmes qui est exprimé par l'idée de oikeiosis. Je vous propose pour l'instant, je répète, de lire l'un des témoins les plus représentatifs de cette théorie pour pouvoir l'intégrer éventuellement à la fin dans notre discussion. Nous ne devons pas ignorer, texte 6, pas ignorer qu'aussitôt qu'un animal est né, il a la sensation de lui-même. La première chose que les animaux sentent, ce sont leurs propres parties, à la fois qu'ils les ont et en vue de quel usage ils les sont. Et nous-mêmes, nous sentons nos yeux, nos oreilles et les autres organes de cette sorte. Si bien que lorsque nous voulons voir quelque chose, nous tournons les yeux vers l'objet visible, non pas vers les oreilles. De sorte que la première preuve que tout animal a la sensation de lui-même, c'est la conscience qu'il y a des parties et des fonctions pour lesquelles elles lui ont été données. La seconde preuve, c'est que les animaux ne sont pas privés de la conscience qu'ils sont pourvus de moyens pour leur défense. Quand les taureaux sont en pleine bataille avec d'autres taureaux ou des animaux d'autres espèces, ils mettent en avant leurs cornes comme si elles étaient des armes innées pour la lutte. Comme la disposition appropriée est d'éprouver de la bienveillance envers nos enfants et l'affection, et celle concernant les biens extérieurs, les choix. De même, l'animal a envers lui-même une tendance à l'autoconservation et envers les choses qui sont bonnes pour sa constitution, une tendance à la sélection. Brèvement, qu'est-ce que nous pouvons nous retenir de ce texte pour notre discussion présente? Personnellement, voilà, même si les deux théories, donc l'explication de Ego et la théorie de l'oïkeiosis sont rapprochées, je soulignerai une certaine distance entre le phénomène épistémologique et pratique de l'oïkeiosis et le phénomène strictement linguistique, donc la désignation à la première personne du singulier. Même si dans tous les enfants, il y a une phase G, on ne peut pas affirmer que G est le premier mot prononcé par un enfant, notamment avec un degré élevé et complet de puissance épistémologique. Je viens de connaître l'enfant d'un couple d'amis et les premiers mots qu'il a dit sont « maman, papa et banane », donc pas « moi ». Effectivement, moi je dirais que ces trois mots sont effectivement la démonstration de cette nature oïkeiotique du langage et pas l'expression de jet. Mais comme je dis, nous pourrons revenir après sur cette question. Je passe maintenant à un autre point qui a été évoqué implicitement par je dirais, sans doute le premier et le troisième exposé d'aujourd'hui, notamment le lien entre indication pronom spécifiquement et essence ou existence. Quand je dis en français « moi », je réponds normalement à une question. Qui a mangé tout le gâteau ou qui fera une conférence au prochain colloque? Dans les deux cas, le pronom est associé à un prédicat. Moi, j'ai mangé le gâteau entier et moi, je peux faire une conférence au prochain colloque. Mais qu'est-ce qu'il arrive quand je dis « je », « moi » sans qu'il s'agisse d'une réponse à une question? Afin d'obtenir plus d'informations, je pourrais essayer par exemple de répéter « j'ai » deux fois, en abutant néanmoins une simple tautologie. Où je pourrais dire, par exemple, mon nom, Angelo. Dans ces cas-ci, je m'appuierai sur l'identité entre le pronom et le nom propre que nous avons observé dans le texte 1. Ou peut-être il y a des cas... voilà, mais il y a effectivement la possibilité d'expliquer la simple assertion du pronom « j'ai » comme l'assertion d'une véritable proposition, donc avec un prédicat. On pourrait répondre, bien évidemment, que j'ai, quand il ne s'agit pas d'une réponse, et quand le prédicat sous-entendu, pour ainsi dire, n'est pas manger le gâteau ou être disponible à parler, à la valeur de je suis ou de j'existe. Donc une valeur existentielle. Cette explication aurait l'avantage de nous faire approcher ultérieurement au point de vue des stoïciens, au moins pour deux raisons. Chaque donnée linguistique atomique se réfère à un objet et pour un stoïcien une proposition. Car à chaque donnée réelle et dénotable linguistiquement doit correspondre dans l'esprit du locuteur une proposition qui se compose au moins d'un nom et d'un prédicat, pi de x. Le fait de prononcer un simple nom ou ce qui correspond en termes ontologiques à un nom, comme nous l'avons vu dans le premier texte, comporte un prédicat d'existence. Si je dis Socrate, je dis Socrate existe. Quand je dis j'ai, je veux dire j'existe, je suis là. De ce point de vue, le pronom j'ai serait, si vous voulez, un cas intéressant qui s'oppose à l'implication du sujet à laquelle le verbe grec nous ont habitués. Quand je dis akouo, donc ou akouéis, je sens, j'entends, tu entends, j'ai et toi, tu sont sous-entendus, même si on ne peut pas dire, ça nous le savons, que l'expression akouo correspond exactement à ego akouo, parce qu'ego akouo signifie c'est vraiment moi qui entends à ce moi. C'est en fait en grec comme par exemple en italien, si je dis ascolto, io sera sous-entendu. Et l'expression io ascolto est quelque chose de différent par rapport à ascolto. Je pense que le cas d'ego, considéré de ce point de vue particulier, peut être utile dans le contexte du stoïcisme, car il constitue la meilleure explication pour une doctrine stoïcienne célèbre et apparemment très contre-intuitive. Il s'agit du texte 7. Chrysippe, disant que rien n'empêche que quelque chose d'impossible suive même de quelque chose de possible, ne dit rien contre la preuve énoncée par Aristote, mais il essaie de montrer qu'il n'est pas ainsi, au moyen de certains exemples composés d'une façon qui n'est pas valable. Il dit en effet que dans le conditionnel « si Dion est mort », celui-ci est mort, qui est vrai lorsqu'on se réfère ostensiblement à Dion, l'antécédent. Dion est mort est possible puisqu'il est possible qu'un jour il devienne vrai que Dion est mort, mais que celui-ci est mort est impossible. En effet, quand Dion meurt, la proposition « celui-ci est mort » est détruite, l'objet sur lequel porte la référence ostensible n'existant plus. Car la référence ostensive s'applique à un vivant et se dit d'un vivant. Ainsi, si l'on ne peut plus dire « celui-ci » une fois qu'il est mort, et si Dion ne revient pas à l'existence de façon que l'on puisse dire de lui « celui-ci est mort, celui-ci est mort » est impossible. La phrase qui nous intéresse le plus est la suivante « Apotanontos gar dionos phteirestai to axioma to utos technike meketontos tu » ten deixin apodecomenu. En effet, quand Dion meurt, la proposition « celui-ci est mort » est détruite, l'objet sur lequel porte la référence ostensible n'existant plus. Si on devrait longtemps réfléchir afin de comprendre exactement que l'expression « celui-ci est mort » est impossible, l'assertion de Chrysippe devient très claire dans le cas d'ego. Ego possède une valeur déictique, comme nous l'avons vu dans le texte 4. Ego utos, moi celui-ci, technica, moi celui-ci, imaginons, je suis mort, est impossible, non seulement parce que l'objet de la déixis n'existe plus, texte 7, mais aussi parce que lui, il est disparu avec le sujet même de la déixis, de l'assertion, c'est-à-dire moi-même. Donc, cet exemple, vous le voyez, souligne, je pense, d'une manière très forte la relation entre usage d'un pronom et existence qui est fondamentale dans l'idée grecque du pronom. D'un point de vue de philosophie du langage, le pronom est souvent, dans la littérature grammaticale, lié à l'ousia, qui doit être entendu notamment comme qui doit être traduit quand elle est liés au pronom, non pas comme substance, mais comme existence, comme le fait l'une de mes autorités, disons, voilà, qui à la page 306 note, début de la page, souligne le fait notamment que quand on parle de pronom et on lit le pronom avec, avec l'usia, l'usia doit être entendu comme, non pas comme substance, mais comme existence. Ego technica, moi-même je suis mort, n'est pas la seule expression linguistiquement impossible qui doit nous intéresser aujourd'hui. Cette constatation nous permet de passer au texte 8 et 9 de mon handout. Je ne pourrai pas les lire d'une manière détaillée, mais je les ai insérés, pour ainsi dire, dans mon handout comme une sorte de véritable dossier grammatical. Les parties soulignées, en particulier, concernent de près ce que nous avons discuté jusqu'à présent. Néanmoins, je voudrais lire avec vous la deuxième partie soulignée du texte 8. Il y a deux figures, simples et composées. Simple, par exemple, est mou, sou, hou, de moi, etc., non réfléchi. Composé, par exemple, est maoutou, saoutou, haoutou. Nous venons effectivement de près à notre sujet présent. De moi-même, etc., réfléchi. La perspective de Denis Letras, donc il s'agit de la grammaire de Denis Letras, dans le texte que je viens de lire, est pourtant strictement morphologique dans ce passage-ci. Vous le voyez, la différence entre forme simple et forme réfléchie étant donnée par la composition. Pour élargir notre perspective vers la déixis du pronom réfléchi et sa valeur en termes de prédication, donc c'est ce que je disais au début, qu'est-ce que ça signifie de créer une proposition où une action retombe sur moi-même, ou en général une action du sujet retombe sur le sujet même. Nous devons passer à lire la partie finale du texte 9, le chapitre 141 du deuxième livre de la syntaxe d'Apollonius d'Iscole. Donc nous sommes au deuxième siècle après Jésus-Christ, nous sommes dans le deuxième livre voilà, de la syntaxe qui est consacré entièrement au pronom, comme après le traité séparé sur le pronom. Je vais donc lire rapidement ces chapitres 141. Quant à la malformation du cas direct de Emaoutou, voici maintenant comment on peut la démontrer. Nous avons dit presque. Donc, pourquoi est impossible de... ça, c'est la chose que Apollonius d'Iscole vise à démontrer. Et ça touche, je pense, d'une manière très proche notre sujet. Pourquoi est impossible, pourquoi est-il possible d'avoir en grec Emaoutou, le génitif de moi-même? Et pourquoi, pourquoi il n'y a pas de nominatif? Pourquoi la première personne, ou en général le pronom personnel réfléchi, ne peut pas exister au nominatif, donc comme sujet? Quant à la malformation du cas direct de Emaoutou, voici maintenant comment on peut la démontrer. Nous avons dit précédemment que le cas oblique renvoie au cas direct, les verbes intermédiaires assignant l'activité au direct et la passivité aux obliques, comme dans Dionysos etupse theona, Denis a frappé Théon, ego se etimesa. Il s'agit de phrases standards, moi, je, nominatif, te, te honoré, te accusative. La passivité qui affecte les obliques le fait passer au cas direct. Le cas primitif se transforme en génitif accompagné de la préposition « upo ». Ça, nous le savons de nos études de grec. « Ego se eideira su deidares upemo »« Moi, j'ai été rossé, toi, tu as été rossé par moi ». Mais c'est aussi chose admise qu'on peut faire porter un procès non seulement sur une autre personne, mais aussi sur la sienne propre. Et c'est à cause de cette construction qui a été inventée la double figure du pronom. Donc quelque chose comme hauton, Emmaüton. Simple pour le passage à une autre personne, composé pour le retour du procès sur la même personne, qu'à la fois subit et exerce le procès. C'est pour cela qu'on a aussi parlé, qu'on a aussi appelé le composé réfléchi, d'après la métaphore des corps qui se renvoie à eux-mêmes une image réfléchie. On l'a appelé, encore appelé autopassive, on a montré que les personnes désignées par les pronoms simples sont allopassives, c'est-à-dire qu'elles subissent un procès, dont l'agent est une autre personne. La forme de réfléchi est pleinement accordée à l'unification du signifié. C'est une personne unique qui exerce et subit le procès, et la forme est unifiée par la composition. « Emmaüton e paisa, j'ai frappé moi-même. Iup emmaütou e plegen, j'étais frappé par moi-même. » Pour des raisons d'espace, je me suis limité à insérer dans mon handout le chapitre 141. En effet, ce chapitre n'est que le début d'une discussion plus longue qui arrive jusqu'au chapitre 146, visant à démontrer l'impossibilité de deux formes linguistiques qui nous intéressent pour notre sujet. La première forme, et ça je l'ai déjà annoncé, est que n'est pas considérée comme possible, et celle-ci, celle du nominatif, emmaütos, voilà, moi-même comme sujet, le nominatif de moi-même. Le chapitre que nous venons de lire justifie l'inexistence, le problème pour Apollonius c'est on n'a pas cette forme, mais on a la forme, par exemple, de l'accusatif. On a, nous le savons, emmaüton, moi-même, voilà. Je peux dire dans les exemples que nous avons vus, je frappe moi-même. Ça, on peut le dire avec emmaüton et paisa. Le chapitre 141 justifie l'existence de formes comme eauton, moi-même objet. Et ça, nous l'avons lu. À partir de 142, on montre que la phrase emmaüton et paisa, j'ai frappé moi-même, est légitime car emmaüton, l'accusatif du pronom personnel réfléchi, exprime l'objet. Tandis que « epeisa », le verbe « j'ai frappé », comporte l'expression du sujet. Parce que Apollonius part de l'idée que toute forme verbale, il dit, en français c'est plus difficile, mais imaginons « acuo, acueis, acuei hein? ». J'entends, tu entends, il entend. Toute forme verbale comporte l'expression d'un nominatif. Parce que si je lis acueis, j'ai immédiatement l'indication de tu entends. Donc le sujet est conjoint immédiatement. Ça suffit pour que le sujet soit exprimé. Si on a par exemple emmaüton et paisa, j'ai frappé moi-même, nous aurons l'objet indiqué par emmaüton et le sujet je indiqué par le verbe. Hein? Moi, j'ai frappé moi-même. Apollonius se demande qu'est-ce qu'il arrive si je dis, s'imagine que emmaütos, donc le nominatif, existe, et je dis paisa. Emmaütos et paisa. Moi-même, sujet, j'ai frappé. Là, ça ne va pas, parce que nous aurons en fait une double indication du sujet qui est tout à fait inutile, parce que le sujet est déjà exprimé par la forme verbale. Dans emmaütos et paisa, on aurait donc affaire avec deux cas directs. Je saute un peu de passages plus techniques d'Apollonius et j'arrive à... au chapitre 146, qui est pour nous probablement la chose la plus intéressante, plus fascinante. Le chapitre 146, qui n'est pas malheureusement dans le handout, mais c'est la fin de cette discussion, et discute non pas la malformation de hémautos, mais la malformation de égautos. Un mot qui, s'il existait, serait notre joie aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est-à-dire un mot où vous avez pratiquement ce que vous avez chez Idipsum, en fait, pour la première personne singulière. Donc, autos plus ego moins. Ce serait magnifique. Voilà. Mais pour Apollonius Discol, Egautus est mal formé, ne peut pas exister. Et il démontre cette impossibilité de la manière suivante. Si je dis, comme nous l'avons vu par exemple, et pensons au cas que Frédéric a mentionné aujourd'hui, Priam, moi-même, et c'était effectivement ego autos. Ego autos. Si nous avons ego autos, donc séparé, pas comme il dit, mais ego autos, moi-même, sentirait. Et si nous disons par exemple, moi-même, j'ai frappé, et paysa, il s'agirait d'une phrase tout à fait possible, mais que impliquerait l'existence d'un objet extérieur. Moi-même, j'ai frappé quelque chose d'autre. Voilà. Donc, une phrase possible, mais qui ne comporte pas de réflexivité de l'action. Imaginons, bien évidemment, un cas comme tout à fait imaginable. Paisa. Ego autos aimé, donc l'accusatif de ego, et paisa. J'ai frappé moi. Vous voyez que la traduction littérale est étrange déjà en française, et en grec passerait exactement ce qui se passe en français où nous disons j'ai frappé moi-même. Donc on aurait ego hémauton et paisa. Donc, on aurait effectivement la forme réfléchie et condensée, mais encore une fois, à l'accusatif. Donc, hémauton, mais pas ces fameux égautos qui feraient notre joie aujourd'hui. Et on pourrait bien évidemment dire hémauton ébrisa, je me suis insulté moi-même. Et en fait, le fait qu'une phrase comme « moi-même, je frappais moi » ne puisse pas se dire en français et en grec, qu'on recourt en fait à la phrase « je frappais moi-même » montre que « moi » en tant qu'objet, donc « aimé », ne peut exister que dans le cas où le subjet est quelque chose d'autre. Quelqu'un m'a frappé, quelqu'un a frappé moi. Si il faut inventer, dit Apollonius, la forme hémauton, donc moi-même en français, parce que cette forme est la seule qui peut indiquer que l'action faite par le sujet retombe sur le sujet en tant qu'objet. À partir de cela, il dit effectivement cela, que en fait, la raison pour laquelle egautos ne peut pas exister, c'est le fait que egautos, si par exemple je dis egautos, moi Priam, je veux le corps de mon fils, en fait, il n'y aurait, à l'aide d'une forme composée, un ajout d'information, il n'y aurait pas la formation d'une forme spéciale qui reflèterait un usage spécial. C'est-à-dire, si hémauton accusative doit exister parce que aimé ne peut pas indiquer l'action réfléchie, cela n'est pas le cas du nominatif, du sujet, parce que le sujet, pour ainsi dire, au nominatif, ne peut pas être réfléchi d'une certaine manière. Voilà. Il y aurait donc, avec cette forme composée moi-même en tant que sujet, changement de la valeur du pronom qu'on a dans le cas où on a la juxtaposition des mots « moi » et « même ». Et donc, la forme « moi-même » simple, sans être objet d'une action, ne peut pas exister. Je ne peux pas, dans la mentalité d'Apollonius, énoncer « moi-même » en tant que sujet, même sujet d'existence, dans cette version comprimée. Jusqu'à présent, nous avons discuté et éclairci donc les notions de sujet, objet, prédication et réflexivité dans le cas spécifique du pronom grec « ego » et de l'expression « moi-même ». Comme je l'avais annoncé au début de mon exposé, je voudrais m'occuper pour terminer d'un exemple d'action adressée à soi-même et caractérisée par un certain intérêt philosophique. J'espère que cet exemple aidera aussi à mieux éclaircir cette question un peu obstruse de l'impossibilité du réfléchi nominatif. Cette analyse nous permettra de revenir sur certains points de la discussion menée jusqu'à présent. Le cas dont je m'occuperai est celui de Marc Aurèle, que, comme vous, je vous ai dit, m'a occupé pour un certain moment. Et je vous dis avec quelques mots pourquoi, effectivement, le cas de Marc Aurèle est intéressant pour le sujet d'aujourd'hui. Et Marc Aurèle écrit l'ouvrage qu'on appelle « Le Pensée »,« Ta, Eis et Auton », donc les écrits adressés à soi-même, vraisemblablement dans les dernières années de sa vie, passées sur le champ de bataille. Il s'agit d'un ouvrage en prose grecque, en 12 livres. Chaque livre contient un nombre de chapitres compris entre 16 et 75. Certains chapitres ne sont formés que d'une seule phrase, tandis que d'autres s'étendent sur plusieurs pages. Ça, c'est plus ou moins ce qu'on trouve dans cet ouvrage. En lisant certains de ces chapitres, nous voyons qu'ils contiennent une réflexion, presque toujours avec un contenu moral exprimé sous la forme d'un énoncé bref et très général, soit d'une exhortation ou d'un ordre, ou encore organisé comme un argument plus complexe. Nous nous rendons compte, en outre, que la personne à laquelle toutes les exhortations, tous les ordres et toutes les questions sont adressées est Marc Aurèle lui-même. Nous découvrons que Marc Aurèle écrit cet ouvrage dans le but de maintenir vivant dans son âme, on pourrait dire dans sa dianoïa, concept que nous avons déjà abordé d'un point de vue de philosophie du langage, maintenir vivant dans son âme le principe de la philosophie, notamment le principe du stoïcisme. Et cela afin d'établir à partir de ses actions et sa disposition envers les êtres humains et les événements. La notion de praxis d'action que nous avons abordée aujourd'hui, surtout dans le troisième exposé, reviendra maintenant à nouveau. Avec ses pensées, Marc Aurèle nous offre donc un cas particulier de transmission de sagesse, un discours de sagesse, notamment de sagesse stoïcienne, adressé à soi-même. Je vais aborder très rapidement certaines caractéristiques de cet ouvrage qui seront apparemment très loin de la discussion que j'ai menée jusqu'à maintenant, mais je les réintégrerai dans mes conclusions. Deux caractéristiques de ce texte, sur la base de la description que j'ai donnée jusqu'à maintenant, sont important pour notre but. Déjà, la pratique de la répétition. Je dis donc que Marc Aurèle répète constamment les principes du stoïcisme à soi-même pour les apprendre, disons, d'une manière rapide. Et l'idée d'une valeur performative de l'écriture, de cette communication avec soi-même. Il communique avec soi-même, il répète ses doctrines à soi-même pour modifier, pour déterminer ses actions. En d'autres termes, au sein de son opération d'écriture, l'auteur crée des propositions, notamment des propositions concises, en thématisant à plusieurs reprises le même sujet. Son écriture se présente comme un outil capable de déterminer un changement dans l'âme et dans le comportement du destinataire du texte, le destinataire étant lui-même, dans la direction de la justesse morale théorisée par la doctrine, notamment la doctrine philosophique, avec laquelle, lui, il s'identifie. Je vous propose de lire rapidement le texte 10, notamment le début. À l'homme sur qui ont mordu les vrais principes, il suffit d'un mot même le plus court et le plus commun pour lui rappeler de l'absence de douleur et de peur. La suite du chapitre est très belle, mais elle ne nous intéresse pas aujourd'hui. Notamment une citation homérique réinterprétée philosophiquement. La forme brève, dans ces cas-ci, une très célèbre citation d'Homère contenant un rapprochement entre les feuilles et les générations humaines, a donc la fonction de rappeler un principe, notamment un vrai principe qui nous a préalablement mordu. Mais concentrons-nous sur la partie initiale du texte. À l'homme sur qui ont mordu le vrai principe, il suffit d'un mot et du plus commun pour lui rappeler de l'absence de douleur et de peur. L'expression peut être comprise notamment à partir de la pratique expressive et dialectique que l'on trouve dans l'ensemble de l'ouvrage. Tout au long de son ouvrage, Marc Aurèle ne se limite pas à énoncer des principes ou à communiquer à soi-même, répétons-le, les préceptes à respecter. Il montre en revanche une attitude à démontrer les doctrines stoïciennes qu'il a rencontrées au cours de sa formation. Son interlocuteur intériorisé, pour revenir à la première partie de mon exposé et aussi à votre exposé, en utilisant une expression de Bernard Williams, est un autre dialectique qui aide Marc Aurèle à reformuler et assimiler les doctrines. Je voudrais maintenant passer, je suis presque à la fin, un texte qui nous permettra d'approfondir cette dimension épistémologique de la notion stoïcienne de soi, notamment comme sujet-objet de communication. Il s'agit du texte 11, où l'on compte d'ailleurs plusieurs points communs avec les précédents extraits. Je lirai cette fois aussi que la première partie. Telles sont les choses dont tu reçois souvent leur représentation, telle sera ton intelligence, car l'âme est trempée par leur représentation. Trempe-la donc avec une attention constante à des représentations telles que celle-ci. Par exemple, là où il est possible de vivre, il est là aussi possible de bien vivre. Or, on peut vivre à la cour, donc on peut bien vivre à la cour. À partir de ces textes, nous pouvons déduire plusieurs points. La pensée, ou pour être plus précis, le contenu de la pensée est déterminé par les représentations. Le verbe « fantase » et le nom « fantasia » ont ici le sens général de représentation, soit provenant de l'extérieur, soit provenant créé par l'esprit lui-même. Il s'agit de matériel conceptuel tiré de l'épistémologie stoïcienne où la notion de représentation joue un rôle essentiel. L'individu possède la capacité de créer des représentations capables de déterminer le contenu de sa pensée, donc cette valeur performative. De telles représentations ont une nature propositionnelle. Ils ont, en d'autres termes, une dimension verbale. La création d'un contenu de pensée sur la base d'une représentation a lieu à travers sa fréquente répétition du contact avec l'âme qui est trempée, c'est-à-dire coloré par leur représentation. Les représentations propositionnelles qui déterminent à travers leur répétition les contenus de la pensée ont une formulation syllogistique. Elles trahissent, encore une fois, par conséquent, un but démonstratif. On cherche à démontrer quelque chose aux yeux de son interlocuteur qui est soi-même. Les caractères, excusez-moi, voilà. Je sauterai une petite partie de mon exposé pour passer directement aux conclusions. Je vous demande seulement de me permettre de lire les deux textes qui restent, qui servent notamment à souligner cette dimension dialectique de la communication avec soi-même qui est mise en place dans les pensées. Donc le texte 12 qui dit « Il faut supprimer non seulement les actions qui ne sont pas nécessaires, mais aussi leur représentation. De cette façon, en effet, les actions qu'elles pourraient entraîner ne s'en suivront pas. Enfin, les principes, comme pourraient-ils mourir, à moins que ne s'éteignent les représentations correspondantes. Or, ces représentations, il est en ton pouvoir de les ranimer sans cesse. » Donc, Marc Aurèle, dans le pensée, communique avec soi-même. La communication avec soi-même consiste à rappeler et à démontrer des doctrines qui seront nécessaires pour organiser, pour gérer ses propres actions. Pourquoi cet aperçu de la démarche philosophique de Marc Aurèle dans ses écrits, encore une fois, adressés à soi-même? Bien évidemment, pour passer, comme je l'ai dit au début de mon exposé, de moi à moi-même à moi faisant quelque chose qui concerne moi-même, ou plus techniquement, moi engagé dans une prédication concernant moi-même, dans tout cas grammatical possible. Mais je pense que ce bref exposé sur l'empereur a été surtout pour moi une façon pour commenter ultérieurement, à la lumière du sujet de la journée d'étude, les deux textes les plus fascinants, selon moi, du dossier que je vous ai présenté, le texte 4 et le texte 9. Nous avons notamment confirmé que la notion de soi suit un modèle strictement intellectualiste. Chrysippe disait, quand je dis « moi », j'indique, même avec ma bouche, même avec mon geste, ma pensée, ma dianoïa. Le soi intériorisé de Marc Aurèle, avec lequel il s'engage dans une confrontation dialectique constante, est la même dianoïa que, selon Chrysippe, nous indiquons à chaque fois que nous prononçons le mot « ego ». Je me suis rappelé avant, en fait, qu'il y a, juste pour confirmer les liens terminologiques, il y a un chapitre des pensées que je n'ai pas ici le texte, malheureusement, où le dialogue de Marc Aurèle avec soi-même est exprimé d'une manière dramatique, vraiment avec un échange de mots. Tu dois faire ça, tu dois accomplir ton devoir. Et à un moment donné, Marc Aurèle pose la question, mais qui est ce toi avec qui, auquel tu t'adresses? Ben, c'est ta dianoïa, c'est ta pensée. Voilà. Ces modèles dialectiques de confrontation avec soi-même nous confirment sur le plan philosophique, je pense, mais c'est quelque chose qu'on pourra effectivement discuter, le défi, au moins dans ce contexte stoïcien, d'une réflexivité purement descriptive et existentielle. Comme nous l'avait montré, les difficultés qu'il y a pour définir ego dépourvu de prédicat, et surtout l'observation d'Apollonius d'Iscole sur l'impossibilité de egautos, donc de réfléchir à la première personne du singulier au nominatif. Nous pourrons donc conclure, et c'est quelque chose que nous avons entendu, sur laquelle nous avons discuté ce matin à plusieurs reprises, que dans ce texte, dans cette perspective, le modèle de la réflexivité est un modèle dynamique. Même la réflexion, d'une certaine manière, n'existe que sur le plan de l'action. Je vous remercie, mesdames, messieurs, de l'attention que vous m'avez accordée.